Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Chères auditrices et auditeurs de la web Radio Rage, voix de jeunes, bonjour. Heureux de vous rencontrer encore une autre fois dans ce nouveau numéro de l'émission Invité de la semaine, où nous avons l'honneur de recevoir deux personnes avec nous aujourd'hui. D'habitude, on reçoit une seule personne, mais cette fois-ci, il s'agit de deux jeunes Français de passage en Algérie. Et nous, en tant qu'association RAGE, en tant que web radio, nous avons profité de cette occasion pour débattre avec eux des questions d'intérêt général qui concernent la jeunesse algérienne et la jeunesse française en particulier, parce que aussi il s'agit de deux militants associatifs, des militants de SOS à racisme. Donc je tiens à souhaiter la bienvenue à monsieur Paul Morin, membre de SOS à racisme, aussi qui mène un travail de recherche sur la mémoire. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonjour, merci de nous avoir invités.
Et aussi mademoiselle Justine Borassou, juriste et membre de SOS Racisme. Merci aussi d'avoir répondu à l'invitation de la web radio RAGE.
Merci de nous accueillir aujourd'hui.
Merci beaucoup à vous deux. Donc, SOS Racisme, c'est une association très connue depuis les années 80 dans son travail, dans la lutte contre le racisme, l'intégration, la paix, la tolérance, etc. Donc, je vais commencer par vous, mademoiselle Borassou, si vous pouvez nous parler un peu de SOS Racisme, de ses objectifs et de ses actions qu'il mène sur le terrain.
Oui, bien sûr. Donc, SOS Racisme est né en 1984, en même temps que les manifestations pour l'égalité. Donc, afin de lutter contre le racisme, l'antisémitisme et toute discrimination à caractère raciste. Donc voilà, dans une volonté de promouvoir une société française où il y a une certaine tolérance, une volonté de vivre ensemble et de dessiner une France métissée qui s'accepte. SOS Racisme est composé de plusieurs pôles et de plusieurs activités. Donc il y a le pôle juridique qui a été créé il y a déjà un moment, qui s'occupe de deux choses, de grands champs d'activité. Donc il y a le premier, c'est les permanences juridiques, donc au téléphone, les victimes de racisme et de discrimination à caractère raciste viennent nous appellent et nous leur donnons des conseils légaux sur les actions à mener suite à leurs problèmes. Ensuite, il y a une lutte contre les discours de haine dans les médias, des personnages politiques comme Jean-Marie Le Pen par exemple. Donc SOS Racisme saisit la justice pour lutter contre ces discours. Il y a un pôle d'éducation populaire qui lutte contre les préjugés, donc il intervient en milieu scolaire pour lutter contre les préjugés et les discriminations. Il y a aussi tout un pôle qui s'occupe de tout ce qui est événementiel et culturel par l'organisation de concerts de solidarité. Enfin, il y a des pôles régionaux, donc des comités qui agissent dans toute la France, qui organisent des événements pour promouvoir le vivre ensemble.
Ah, très bien, donc SOS Racisme, non seulement il reçoit, il dénonce par des communiqués, mais elle mène même aussi, elle bouge, même elle interpelle la justice sur des questions.
C'est exact. Lorsqu'il y a, par exemple, des déclarations de personnages publics, voire politiques, justement, qui disent des propos à caractère raciste, des propos de haine, SOS Racisme se porte partie civile et engage des actions en justice contre ces personnes, puisqu'on ne peut pas tolérer que cela arrive.
Oui, SOS Racisme, monsieur Paul, c'est une association donc pour objectif de lutter contre le racisme, Mais ces derniers temps, malheureusement, on a constaté la montée du racisme en France et ailleurs dans le monde d'une manière générale, mais en particulier en France, la France des couleurs, comme Donc, selon vous, quelles sont les raisons de la montée du racisme? Qu'en est-il aujourd'hui de la France des couleurs?
Alors, j'espère apporter une réponse complète à une question qui est complexe, parce que le retour des questions raciales et identitaires aujourd'hui en France et en Europe, c'est un phénomène qui est profond, parce qu'il a trait à des changements des sociétés européennes qui sont uniques, inédits et profonds. Aujourd'hui, il se passe quelque chose en Europe. Il se passe quelque chose à la fois lorsqu'on regarde la position que l'Europe tient au niveau mondial et lorsqu'on regarde ce qui se passe à l'intérieur des sociétés européennes. On se retrouve dans une situation où l'Europe est un continent qui est habitué à dominer le monde depuis des centaines d'années et qui aujourd'hui vit, et fort heureusement, un rééquilibrage des pouvoirs, un rééquilibrage du monde des questions géopolitiques avec une nécessité de partager le pouvoir avec d'autres puissances anciennement colonisées. Donc je pense bien sûr aux puissances asiatiques, à l'Amérique latine, aux puissances africaines qui, il y a peu de temps encore, étaient colonisées et qui aujourd'hui deviennent des acteurs avec qui il faut travailler, échanger d'égal à égal. Et pour l'Europe, c'est quelque chose de nouveau. Ça, c'est ce qui se passe au niveau international. Au niveau, à l'intérieur même des sociétés européennes, il se passe quelque chose de similaire avec l'arrivée d'immigration depuis plus d'un siècle maintenant, de partout dans le monde, des anciennes colonies qui viennent transformer les sociétés européennes de manière très profonde, avec aujourd'hui des Français, des Italiens, des Espagnols qui ne sont pas blancs, qui ne sont pas catholiques, mais qui viennent d'autres espaces mondiaux et qui constituent aujourd'hui une nouvelle identité française, européenne. En fait, lorsqu'on dit qu'il y a un retour du racisme aujourd'hui en France, c'est vrai, puisqu'il y a une augmentation des actes, notamment antisémites ou racistes, depuis, on va dire, 5-10 ans. Mais à mon avis, c'est parce qu'il y a plus d'égalité. C'est parce qu'on se retrouve dans un monde où il faut partager aujourd'hui le pouvoir, il faut partager les richesses avec d'autres pays, avec des personnes qui autrefois étaient inférieures légalement, jugées inférieures légalement, ou considérées de manière idéologique inférieures. Aujourd'hui, l'égalité devient une réalité, et il faut partager cela. Et ça crée, en Europe et en France, des questions identitaires très fortes, où il faut penser le monde autrement, il faut penser la société autrement. Et cela advient à un moment aussi qui est une crise économique importante depuis 2008, une des plus grosses crises économiques qu'on ait vues depuis les années 30. Et cette crise, avec toutes les insécurités sociales, économiques, politiques qu'elle provoque...
Justement, sur la crise économique, donc, je pense que même la crise économique a une relation directe pour la montée du racisme suite à la crise qui a secoué l'Europe ces dernières années sur le plan économique.
Exactement, puisque des partis, notamment d'extrême droite, vont développer des discours qui fonctionnent beaucoup dans les sociétés européennes, de bouc émissaire, où ils vont rendre responsables les Roms, les Noirs, les Arabes, les migrants, les immigrés, les enfants d'immigrés, responsables de cette crise. Et c'est des discours qui fonctionnent très bien parce qu'ils activent chez les populations européennes quelque chose de presque inconscient où on leur dit « c'était mieux avant ». C'était mieux avant quand l'Europe dominait le monde, c'était mieux avant quand seuls les blancs catholiques ou protestants vivaient en Europe et pouvaient se partager le gâteau. Et ces discours-là, s'ils sont aujourd'hui maquillée, modifiée, teintée de populisme, transformée, édulcorée, ils actionnent chez les Européens quelque chose d'inconscient qui est très fort, et qui pousse beaucoup d'Européens vers les votes extrêmes, vers des actes racistes ou antisémites.
Il y a l'influence des discours, des politiques, ça veut dire sur la population, sur la montée du racisme. Donc même les officiels, ils cautionnent certains partis politiques, ils cautionnent la montée du racisme.
Bien sûr, ils le cautionnent, ils en sont responsables. Et je ne parle pas seulement de ce que peut dire un parti comme le Front National, puisque son discours, malheureusement, a pénétré l'ensemble de la société et est recyclé par d'autres partis populistes. On l'a vu avec le président Sarkozy et le débat sur l'identité nationale qu'il a instauré, voulu lancer en France, et ce que ça a déclenché en termes de paroles racistes qui s'est libéré. Alors qu'avant, il y avait des digues, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas dire et qu'aujourd'hui, on peut dire. Et il y a une corrélation directe entre ce que peut dire un responsable politique et les actes sur le terrain. Lorsque vous avez un Premier ministre, même de gauche, comme Manuel Valls, qui va faire des déclarations où il dit « les Roms ont vocation à retourner en Roumanie », où il essentialise une population ethnique.
Vous qualifiez ça comme un propos raciste?
C'est un propos raciste, oui. Après, il y a eu des poursuites judiciaires qui n'ont pas abouti pour qualifier ce propos, mais quand on essentialise une population particulière, c'est un propos raciste. Mais sur le terrain, ça donne un permis d'agressivité, ça donne un permis d'agression à des gens qui sont confrontés, qui voient des Roms, qui les croisent, et qui vont se dire, si même le Premier ministre est prêt à les renvoyer en Roumanie ou en Bulgarie, donc je peux aller dans le camp de Rome et je peux les frapper en toute impunité. Quelques mois après ces déclarations, il y a un jeune homme qui s'appelle Darius, Rome, qui a été agressé, lynché. Heureusement, il a survécu, mais ça a été fait en toute impunité. Les responsables n'ont pas été retrouvés. Voilà, et l'État ne met pas en action tout son appareil, que ce soit la justice ou la police, pour essayer de résoudre ces questions-là.
Très bien. Mademoiselle Justine, et vous, ça veut dire, sur le plan juridique, après ces propos racistes, après ces actes racistes, est-ce que vous faites quelque chose? Ça veut dire, est-ce que vous interpellez directement la justice? Est-ce que vous avez eu des réponses favorables?
Eh bien, nous accompagnons donc les personnes victimes de racisme quand elles viennent vers nous. Donc on les accompagne en leur expliquant quels sont leurs droits, parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ne connaissent malheureusement pas leurs droits et ne connaissent pas le code pénal et toutes les infractions qui puissent exister. Donc lorsqu'il y a, c'est quelque chose de très fréquent, hein, des personnes qui nous appellent, qui sont victimes de harcèlement, de violence, ce sont des faits assez graves et assez douloureux pour ces personnes. Donc on est là pour leur expliquer leurs droits et leur dire que oui, ils peuvent porter plainte et qu'il y a il y a derrière eux des associations et des entités qui peuvent les soutenir et les aider dans leur démarche.
Et pourtant, sur ce que vous avez dit, la France quand même qui prend un discours de respect des droits humains, mais sur la question d'immigration, on trouve que deux points mesurés, alors que l'immigration, c'est un facteur de développement, c'est un facteur d'intégration, etc.
Oui, alors c'est toute l'ambiguïté du système français, qui est une terre d'immigration depuis très longtemps et qui a toujours accueilli, c'est vrai, intégré des populations qui venaient d'abord de partout en Europe, puis après de partout dans le monde. C'est une réalité historique qu'il faut appuyer parce que la Révolution, etc. Et c'est aussi un pays où les questions d'intégration sont débattues, sont difficiles, et depuis que la France accueille. Donc il y a toujours eu des difficultés pour les pouvoirs publics a en fait accepté pleinement une politique d'intégration qui vise à mettre les moyens publics de la puissance publique au service de vraies politiques d'intégration qui sont pensées raisonnablement, comme vous le dites, pour faire en sorte que le phénomène migratoire soit une ressource pour le développement économique et social du pays. Mais la politique, ce n'est pas que rationnel, c'est aussi un système démocratique où les dirigeants vont être influencés par des discours populistes que j'ai abordés tout à l'heure et vont, contrairement à ce qui serait intéressant pour le pays, mettre en place des blocages pour limiter l'arrivée de migrants, pour empêcher l'intégration sur le long terme de ces migrants lorsqu'ils sont déjà en France, ou en tout cas mettre beaucoup d'obstacles sur ce passage, sur leur passage ou leur tout processus d'intégration, et qui rend cela très difficile.
Et concernant les relations bilatérales entre l'Algérie et la France, comment voyez-vous, selon vous, ça veut dire, comment voyez-vous la place des migrations?
C'est la relation entre la France et l'Algérie, elle est complexe aussi, elle est dense et elle est longue, on le sait. Depuis 1962, la question des Algériens qui sont en France a toujours été une monnaie d'échange entre les deux pouvoirs pour savoir s'ils étaient français ou algériens, s'ils pouvaient avoir des permis de résidence en France ou pas. Et aujourd'hui, la question des visas, vous n'êtes pas sans savoir, et fait partie des négociations bilatérales. Donc, c'est quelque chose qui est utilisé comme monnaie d'échange dans les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France, comme d'autres sujets, comme les questions de mémoire, comme les questions d'énergie. Ça fait partie de l'arsenal qui est utilisé par les deux pays pour pouvoir peser dans les relations diplomatiques.
Oui, en revenant maintenant sur votre travail, ce que vous faites, ça veut dire, dans SOS Racisme, vous menez un travail de recherche sur la mémoire. Selon vous, quel est l'intérêt de traiter la question de la mémoire?
Alors, il y a un adage qui dit qu'on ne peut pas lutter contre le racisme ou l'antisémitisme sans connaître son histoire et sa propre histoire, mais aussi celle de l'autre, qui fait aussi partie de nous, puisque avec le temps, le nous et l'autre se sont mêlés. Et moi, Paul Morin, je suis héritier de plein de choses dans l'histoire française et européenne. Et développer des activités qui permettent de sensibiliser sur le passé et la mémoire de ce passé, c'est donner des clés aux jeunes pour qu'ils puissent mieux lutter contre les stéréotypes qu'ils portent en eux, mieux lutter contre le racisme et l'antisémitisme dans la société française. On l'a vu lorsqu'il a fallu, pour la France, et ça a été un long processus très difficile, reconnaître la responsabilité de l'État français dans la collaboration avec les nazis, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale. On a vu que c'est un outil qui, aujourd'hui, nous permet de lutter contre l'antisémitisme en France, de pouvoir parler de ces questions mémorielles. De manière similaire, en suivant cet exemple-là, à SOS Racisme, on a compris que dans la société française, il y avait une difficulté très forte pour les jeunes de pouvoir comprendre d'où venaient leurs stéréotypes par rapport aux Arabes. Et on a très bien compris, à SOS, grâce aux travaux des historiens, que cette difficulté, elle est liée à ce qui s'est passé pendant la colonisation ici en Algérie et pendant la guerre d'indépendance. Donc on veut faire un travail de mémoire pour expliquer aux jeunes c'était quoi le système colonial.
Est-ce qu'on n'a pas tardé de traiter cette question de mémoire? Ça veut dire, est-ce qu'on peut accuser aujourd'hui le retard?
Vous voulez dire le rattraper? Il n'est jamais trop tard, et j'aurais bien aimé que ça se fasse plus tôt, bien sûr, mais, mais il n'est jamais trop tard pour le faire. Je pense qu'aujourd'hui, en France, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une vraie demande pour les jeunes de vouloir connaître le passé. Ils savent que la France a menti, ils savent que la France a tué, ils savent qu'il y a quelque chose de très lourd dans ce passé colonial qui les empêche aujourd'hui de pouvoir se considérer pleinement comme des Français, de pouvoir considérer les autres comme des Français, leurs amis français avec qui ils sont allés à l'école, qui sont d'origine algérienne par exemple, leurs amis français qui sont d'origine pied-noir, et ils savent qu'il y a quelque chose qui bloque. Et ils veulent, ils ont vraiment une volonté de pouvoir comprendre. Donc on leur explique c'est quoi le système colonial, c'était quoi le système raciste qui était en place pendant la colonisation ici en Algérie, c'était quoi la guerre d'Algérie, cette violence qui s'est déchaînée, pourquoi il y a eu autant d'exactions, pourquoi la France a bafoué toutes ses valeurs alors qu'elle se proclame le pays des droits de l'homme, pourquoi elle a bafoué toutes ses valeurs dans cette entreprise narcissique de vouloir maintenir l'Empire, maintenir l'Algérie française. C'est quelque chose qui n'est pas expliqué en France. Et jusqu'à très récemment, là, on commence à voir des choses dans les manuels scolaires, dans l'espace public.
Donc, on peut dire aujourd'hui que la question de reprocher, pour faire reprocher les populations, donc il faut lieu bien traiter la mémoire, de se traiter avec la mémoire.
Oui. Est-ce que c'est une... Oui, exactement. Pour pouvoir aujourd'hui rapprocher les jeunesses algériennes et les jeunesses françaises, il faut regarder ce passé, il faut lire cette page du passé ensemble, avoir une même compréhension, pour pouvoir ensuite la tourner. La tourner et après construire des projets nouveaux, un avenir nouveau. Ça fait des siècles et des siècles que l'espace méditerranéen est un espace d'échange entre les jeunes, les moins jeunes, tout autour de la Méditerranée. Mais entre la France et l'Algérie, il y a quelque chose qui s'est rompu depuis 62 et qu'il faut travailler pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Une relation d'égal à égal où les jeunesses peuvent construire des projets ensemble.
Donc voilà, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc comme dernière question, quel est le rôle on va parler sur le mouvement associatif. Quel est le rôle du mouvement associatif pour faire pression sur les pouvoirs publics, les gouvernements, pour adapter leur politique et permettre le rapprochement des populations?
Alors, SOS Racisme a fédéré, alors je vais parler des institutions françaises principalement parce que je n'ai pas la légitimité ni la volonté de vouloir influencer les institutions algériennes, donc je vais parler de ce qu'on fait en France. SOS Racisme a réuni autour de l'association plus d'une trentaine d'associations françaises, de jeunesse principalement, qui ont une certaine influence dans l'espace public français, pour faire des activités de plaidoyer et proposer aux institutions françaises, et qui j'espère le proposeront aux institutions algériennes, la création d'un office algéro-français pour la jeunesse, qui permettrait de structurer sur le long terme, de donner les moyens aux jeunes de France et d'Algérie de pouvoir se rencontrer de manière plus récurrente, structurée, avec plus de moyens pour faire des voyages, se connaître, construire des projets ensemble. Voilà, c'est ce qu'on fait en ce moment.
Voilà, donc merci beaucoup. Donc on est arrivé à la fin de cette émission, mais je vous donne la parole pour un dernier mot. On commence par Justine Aborasso, si vous avez un dernier mot à dire pour la radio.
Eh bien, on vous remercie de nous accueillir et on est très heureux de voir comment fonctionne aussi la société civile algérienne. Et on est ravis d'être là avec vous.
Monsieur Paul, un dernier mot.
Ben, merci beaucoup pour votre générosité de nous accueillir ici. Merci aux auditeurs de nous écouter. Moi, c'est la première fois en Algérie, donc je suis très content.
Vous êtes bienvenue.
Merci. De découvrir ce pays qui me permet de comprendre l'histoire aussi de mon propre pays. Donc c'est important. Merci.
Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de la Web Radio Raj. Vous êtes les bienvenus même prochainement. Auditrices et auditeurs de la Web Radio Raj, merci beaucoup d'être avec nous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre
pour une parole libre.